Alpe 1, le 8h30.
Et notre invité ce matin dans le 8h30, Marion Lozac-Meur, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation.
Procureur de la République de Gap, vous avez fait votre entrée judiciaire il y a 10 jours à peu près, avec toujours les mêmes priorités. La lutte contre les violences intrafamiliales, la sécurité routière et les trafics de stupéfiants. Je le disais, toujours les mêmes priorités. Est-ce que c'est à dire qu'il y a un échec des politiques mises en place ?
Non, ça veut dire qu'il faut maintenir nos efforts et que si on a pu avoir des résultats substantiels, je pense notamment à certaines belles affaires en matière de trafic de stupéfiants, on ne se fait pas d'illusions, les trafics continuent. Et donc il faut, comme je le disais, collectivement maintenir nos efforts. C'est pareil en matière de violence intrafamiliale. Je pense qu'il y a vraiment une révolution des consciences qui est intervenue ces 10 dernières années, une prise de conscience de tous les acteurs. Mais pour autant, les cas de violence conjugale continuent, et les violences intrafamiliales également. Et donc il faut être inlassablement au rendez-vous judiciaire.
Et comment on est au rendez-vous judiciaire ?
Alors, il y a plusieurs axes d'action, c'est souvent le cas en matière de politique pénale. D'abord, il y a justement, à proprement parler, la politique pénale et la répression. Et en matière de violence intrafamiliale, c'est une politique pénale qui est très ferme, avec un grand nombre de déferrements, avec déplacements sous contrôle judiciaire, et très régulièrement, et je sais que vous les couvrez, des comparutions immédiates liées à des faits de violence intrafamiliale, les faits les plus graves. Et puis après, il y a une politique de prévention et une politique de formation. Et ça, c'est quelque chose qu'on mène à l'échelle du département avec tous les acteurs, c'est extrêmement précieux, notamment au travers de copiles et de colloques, où tous les acteurs locaux, justice, département, État, associations, forces de police et de gendarmerie, se réunissent pour réfléchir à cette problématique. On a parlé du soin déjà avec les médecins, on a parlé du logement. Et bientôt, fin 2025, début 2026, on va relancer une série de colloques autour de la problématique des violences et autour d'une problématique qui est actuelle, en fait, qui existe depuis longtemps, mais qu'on est en train de théoriser, qui est celle du contrôle coercitif.
C'est-à-dire ?
Alors, le contrôle coercitif...
Pardon, je pense que les auditeurs sont comme moi.
Il faudra venir au colloque que nous envisageons d'organiser en janvier. Mais en fait, c'est... Alors, je vais être un peu caricaturale et les spécialistes m'en voudront, mais c'est ce qui n'est pas de l'ordre de la violence physique, mais ce qui est de l'ordre du contrôle, de la pression, de la tension, et qui crée des violences psychologiques et qui crée une situation très complexe à vivre au domicile. Et de plus en plus, alors c'est souvent des situations qu'on appréhende via le harcèlement, par exemple.
Des cas d'emprise.
Des cas d'emprise, exactement. Et de plus en plus, on va vers une définition. Pour l'instant, ce n'est pas une infraction, ça le deviendra peut-être. Mais il y a un certain nombre de professionnels du droit, de praticiens, qui s'en sont emparés dans des décisions de justice. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'embrasser toutes les situations de violence et d'emprise au domicile.
Pour les trafics de stupéfiants, vous parliez de mois de confirmation. Le département des Hautes-Alpes est un lieu de trafic à échelle internationale. Est-ce que ça complexifie la lutte quand... le trafic interagit sur plusieurs territoires internationaux.
En fait, le trafic se joue à plusieurs échelles. Il y a les trafics locaux qui sont pris en charge par les forces de police et de gendarmerie, et il y a très régulièrement des trafics qui sont démantelés. Et puis, on voit, et c'est surtout l'action des douanes qui le met en évidence, qu'il y a, par les routes qui traversent notre département, eh bien, un flux international, Espagne, Italie, Italie, Espagne, c'est souvent ces destinations-là. Et les douanes ont ainsi, et vous le savez, procédé à des saisies très importantes de cocaïne qui sont assez inédites et qui se répètent. On en a eu 2 ou 3 l'année dernière et j'imagine que ça sera pareil fin 2025 et début 2026.
On a beaucoup parlé dans l'actualité de la proposition soumise par la députée des Hautes-Alpes, Marie-Josée Allemand, d'une prison à Gap excentrée, proposition immédiatement balayée d'un revers de main par le maire Roger Didier. Est-ce que c'est dans les tuyaux ?
Alors, il y a des discussions entre élus locaux. Ce qui est dans les tuyaux, c'est la réflexion sur d'abord la construction de prisons. Il y en a une qui va ouvrir bientôt dans le comtat vénessin, par exemple. Donc celle-là, elle est complètement dans les tuyaux. C'est la région, nous, on dépend de la région sud, donc on va être impacté par cette ouverture. Les Baumettes 2 vont ouvrir également. Et puis, ce qui est dans les tuyaux aussi, c'est une réflexion sur les formes de prisons. Ça, c'est notamment porté par le garde des Sceaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que tous les délinquants soient dans le même type d'établissement. Et notamment, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des établissements, non pas moins protégés, mais avec un autre système carcéral pour des délinquants routiers, par exemple, qui ne présentent pas le même profil et la même dangerosité sociale que des narcobandits. Cette réflexion, vous avez vu, elle a trouvé un aboutissement pour les narcobandits, notamment par deux prisons qui ont été choisies. Mais il y a une réflexion aussi de l'autre côté du spectre pour que, justement, par exemple, les primo-incarcérés, ça ne soit pas l'école du crime et que cette seule et unique, enfin, cette première incarcération soit leur seule et unique incarcération.
En tout cas, une maison d'arrêt sur Gap, pour l'instant, on n'en parle pas, ça n'est pas dans les tuyaux.
Pas que je sache, en tout cas, dans les projets de l'interrégion, mais je ne suis pas l'administration pénitentiaire.
Bon, en matière pénitentiaire, en tout cas, vous avez évoqué la maison d'arrêt de Gap, qui était en surpopulation carcérale il y a quelques mois en arrière, et vous appeliez à trouver, je cite, un équilibre entre la réponse pénale et le maintien en détention. Cela a fait réagir les auditeurs qui nous ont écrit en disant, bah, tiens, on va laisser des délinquants dehors. Vous pouvez leur répondre, du coup, aujourd'hui, et je vous laisse leur répondre.
Alors, non, en fait, il s'agit de trouver, et c'est le cœur de notre travail, la bonne réponse pénale pour chaque profil. Un délinquant, c'est quelqu'un qui commet un délit. Ça ne veut pas dire que tous les délinquants ont leur place en prison. Il y a un certain nombre de mesures en milieu ouvert, les suivis, les sursis probatoires, les travaux d'intérêt généraux, etc. Et puis après, il y a aussi plusieurs formes d'incarcération. Il y a l'incarcération entre les quatre murs de la maison d'arrêt de Gap, il y a un quartier de semi-liberté qui vient d'ouvrir, 6 places, il y a les bracelets électroniques. Et donc en fonction des profils, il faut qu'on choisisse la bonne réponse pénale et s'il y a un écrou, la bonne façon d'être écroué. On peut être écroué et être en semi-liberté. Mais il est évident que les personnes dangereuses pour l'ordre public ont leur place en prison et c'est ce que porte le parquet de Gap. Et je peux vous dire qu'en matière de réponse pénale, le tribunal correctionnel suit aussi. Donc les personnes qui sont entre les quatre murs de la maison d'arrêt de Gap y ont leur place.
Vous avez entamé des discussions, des rencontres avec le parquet de Digne-les-Bains. Est-ce que ces discussions vont aller plus loin sur des actions notamment ?
Oui, a priori, on était parti sur l'idée de se rencontrer deux fois par an et de porter ensemble un certain nombre de projets. Et je crois savoir qu'il y a, puisqu'elle sera plutôt organisée par le parquet de Digne, une prochaine rencontre dans les tuyaux avant Noël. Et celle-ci aura notamment pour cœur la question d'un médecin légiste. D'un médecin légiste qui peut-être sera présent sur les deux départements.
Parce qu'on manque de médecins légistes ?
Il n'y a pas de médecin légiste.
Il n'y a pas de médecin légiste, c'est à Grenoble pour Gap et à Aix pour...
À Marseille, pour Digne. Et notre volonté commune avec le procureur de Digne, c'est qu'il y ait un médecin légiste pour nos deux départements, qui puisse réaliser des examens, notamment pour fixer des interruptions totales de travail, et puis qui puisse diffuser son expertise en matière médico-légale. C'est vraiment un projet qu'on porte, c'est un projet qui avance, j'espère pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles, et notre rencontre portera notamment sur ce sujet.
En matière de violence sportive, vous avez signé ce lundi une convention. J'en parle immédiatement après les rapports avec le parquet de Digne-les-Bains, puisqu'il y a eu cette rencontre entre Laragne et Sisteron qui a entraîné des violences. Les violences sportives, aujourd'hui, elles sont de plus en plus prégnantes, de plus en plus violentes.
Alors, c'est difficile à dire, parce qu'en fait, il y a quelques dossiers. On a en tête le match à l'Argentière, vous évoquez ce match-là, mais ces quelques dossiers marquent les esprits. Ce que moi je vois surtout par le renouvellement de cette convention, c'est qu'en fait on a amélioré la façon de traiter ces dossiers. On a amélioré la coordination entre le disciplinaire et le pénal, ça c'est extrêmement important, et on a amélioré la connaissance du monde de chacun. Moi je connais mieux le monde du football, et M. Bellabès, avec qui je signe cette convention, et les arbitres, connaît mieux le monde judiciaire. Donc on améliore globalement la réponse. Après moi je veux pas qu'il y ait de stigmatisation, c'est sûr que chaque incident fait parler, mais pour autant, sur le nombre total de matchs de ce sport qui est le plus populaire, qui est le football, on peut dire que l'énorme majorité des matchs se passent très bien.
En matière d'insécurité routière, vous parliez de problèmes, et là je vous cite encore, d'éducation au volant. Est-ce que c'est-à-dire que c'est un problème générationnel ?
Non, pas vraiment. L'expérience montre que les délinquants routiers ont un peu tous les âges. Après, on se dit que si on réussit la formation des jeunes conducteurs, ils seront bons conducteurs pour tout le reste de leur vie. Mais en réalité, il faut là aussi poursuivre nos efforts inlassables. Et c'est quelque chose qu'on porte en commun avec la préfecture.
Municipal 2026, c'est dans quelques mois. Est-ce que vous craignez que certains candidats s'emparent du sujet de la sécurité à mauvais escient ou avec un discours qui n'est pas factuel ?
Alors, vous imaginez bien que
vous n'allez pas
répondre. Je ne vous en dirai rien. Moi, je vais continuer à faire mon travail, à suivre cette période-là qui est particulière, dans une optique que vous connaissez, qui est la protection des élus et la proximité avec les élus locaux du département.
Merci beaucoup, Marion Lozac-Meur, d'avoir été avec nous ce matin, procureur de la République du parquet de Gap. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Alpe 1, le 8h30.